Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi 6 août 2016. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi la revue de presse, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire, qui sera cette semaine sur le magazine culturel, suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésienne. Je laisse la parole à mon ami, qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Chers amis, on écoute maintenant le journal aujourd'hui avec le titre « Le ministre du Tourisme a lancé le Festival international de Rabai d'Aceh » et l'Algérie s'est intéressée à la coopération de Hajj et d'Omra avec l'Indonésie. Voici le bulletin complet. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, et le gouverneur de Nangro Aceh Darussalam, Zaini Abdullah, ont officiellement lancé le Festival international de Rabai d'Aceh au bâtiment de Sabta Pesona Jakarta jeudi. L'organisation de cet événement vise à préserver et développer l'art traditionnel de la percussion de Rabai comme l'une des richesses culturelles des peuples d'Aceh. Arif Yahya, dans une conférence de presse à Jakarta, a expliqué qu'en outre, l'événement qui aura lieu du 26 au 30 août 2016 était comme un moyen efficace du gouvernement provincial d'Aceh de promouvoir le tourisme d'Aceh qui est désigné comme l'une des destinations touristiques halal de l'Indonésie. Avec l'objectif d'arriver de touristes étrangers à 20 millions de visites et les touristes nationaux à 250 millions, Aceh est prêt à faire une variété de promotions de tourisme halal pour concurrencer avec des villes en Indonésie qui sont des meilleures destinations halal comme Lombok. L'ambassadeur d'Indonésie en Algérie, Safira Masursa, a transmis l'admiration et les aspirations du gouvernement algérien sur le souci de l'Indonésie dans l'organisation des pèlerins de Hajj. En ce qui concerne cela, l'ambassadeur Safira Masursa, dans une rencontre avec le ministre indonésien des Affaires religieuses, Lukman Hakim Saifuddin, le vendredi, a déclaré que le gouvernement algérien a fait l'intérêt d'établir une coopération dans le domaine de l'organisation de Hajj et de la Omra avec le gouvernement indonésien. Compte tenu, l'Algérie et l'Indonésie ont le potentiel dans le domaine du tourisme religieux qui devient un programme touristique excellent entre les deux pays. Dans le secteur de l'éducation, l'Indonésie et l'Algérie ont réalisé des programmes d'échange d'étudiants et ont le projet d'établir la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. Lors de sa visite, l'ambassade a exprimé le désir du ministre algérien des Affaires religieuses et des Aoukouf, Mohamed Issa, à renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur de ces deux pays à travers le renouvellement du protocole d'attente, convenu depuis l'an 1995. Répondant à ce projet, le ministère l'Indonésien de la Religion se félicite du plan de la coopération dans le domaine de l'éducation avec le ministre algérien des Affaires religieuses. En outre, il assiste déjà certaines universités islamiques d'État qui ont établi la coopération avec le gouvernement algérien, tels que IAIN du Nord de Sumatra, OIN de Jakarta, OIN de Malang, OIN de Walisongo Semarang et OIN d'Alauddin. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de la direction de la protection des citoyens indonésiens et le conseil indonésien de l'entité juridique du ministère des Affaires étrangères, a sorti les élèves et les étudiants indonésiens en Turquie d'éviter professionnellement le contact avec l'association du développement socio-culturel du Pacifique ou PASIAT. C'est ce qu'a déclaré le directeur du directorat de la protection du citoyen indonésien et du conseil indonésien de l'entité juridique du ministère indonésien des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal Fandedi à Jakarta. Le gouvernement turc sous le président Recep Tayyip Erdogan a accusé que l'association du développement socio-culturel du Pacifique était affiliée au groupe de Fethullah Gulen, accusé comme serveur du coup d'État échoué. 15 juillet. Selon Iqbal, l'ambassade d'Indonésie a même offert un hébergement aux étudiants en Turquie de rester à l'ambassade indonésienne à Ankara ou au consulat général d'Indonésie à Istanbul comme un abri provisoire en toute sécurité si la situation d'urgence se passe. En interne, le ministère indonésien des Affaires étrangères et les organismes compétents à Jakarta ont préparé plusieurs scénarios pour protéger ou sauver la durabilité de leur éducation si la mauvaise chose se passe. Après le coup d'État en Turquie, le président Erdogan a publié un communiqué distribué aux représentants de la Turquie dans le monde qui demande au gouvernement dans divers pays de fermer les écoles qui sont soupçonnées d'avoir de liens avec PASIAT et aux autres organisations compétentes liées à Fethullah Gulen. Le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a déclaré vendredi à Jakarta qu'il faut maintenir l'élan de la croissance économique au cours du deuxième trimestre 2016 qui a atteint 5,18% en faisant quelques ajustements dans la recette et les dépenses. L'un des efforts pour maintenir l'élan de la croissance économique est d'éliminer l'incertitude qui peut jeter le doute aux investisseurs privés pour l'expansion des entreprises. Selon la ministre, il y a encore les doutes parmi les hommes d'affaires, bien que les indicateurs économiques aient commencé à améliorer au cours du deuxième trimestre de 2016. Mais l'investissement du secteur privé a diminué légèrement par rapport au trimestre précédent. Le dernier. Le gouvernement, à travers le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, MMAF, a réitéré l'interdiction de l'entrée des investissements étrangers dans les pêches de capture de l'Indonésie. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujastuti, a souligné l'importance de la durabilité pour la pêche de capture de l'Indonésie. La pêche n'est pas la science de fossés, elle ne nécessite pas une technologie sophistiquée. Conformément à la durabilité, la mission du gouvernement est de rendre la mer de l'avenir de la nation. Je veux faire le maximum pour la restauration de la pêche indonésienne, a déclaré ceci dans sa déclaration officielle aux journalistes vendredi. Le potentiel de la pêche indonésienne est très grand et devient une occasion en or pour l'investissement du secteur mondial et local. Diverses incitations et facilités avaient été accordées pour l'investissement étaient orientées vers l'exportation et de l'absorption de main d'œuvre. Ces auditeurs auditifs, c'était le journal aujourd'hui. Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix d'Indonésie. Voici le revue de presse. Divers événements importants qui se sont passés pendant une semaine ont été écrits par les quotidiens apparus à Jakarta dans la revue de presse. Nous commençons avec le quotidien Compass, qui a écrit dans son éditorial jeudi le 4 août 2016 « lutter contre le terrorisme. L'appel du président Joko Widodo pour lutter conjointement contre le radicalisme et le terrorisme devrait être réalisé. Cet appel est très important à la fois du contexte national et international. Le terrorisme est devenu un ennemi de la communauté mondiale, y compris l'Indonésie. De temps en temps, il continue à croître dans le monde entier pour de diverses raisons. Il est normal qu'il y ait une question. Pourquoi ne pas voir des signes que la question du terrorisme finira au niveau mondial ou en Indonésie? Pourquoi les terroristes réapparaissent? Quelle que soit la raison, le terrorisme reste une menace pour l'humanité, la sécurité et même la civilisation et de l'humanité. Cependant, qui est nécessaire maintenant est une action concrète de tous les côtés. De tous les éléments communautaires, gouvernement et la société collaborent pour éradiquer le terrorisme. Parce que selon le quotidien Compass, comme le dit le dicton, les terroristes se régénèrent avec le modèle de mourir en grandir en milliers. Alors éradiquer la semence avant qu'elle naisse. Cependant, le quotidien Média Indonésien écrit dans son éditorial vendredi 5 août 2016 « Arranger la feuille de route de l'économie islamique ». Au milieu du ralentissement de l'économie mondiale au cours des trois dernières années, l'Indonésie est encore parmi de respirer librement. L'économie indonésienne a augmenté de près de 5% dans la première moitié de cette année. Toutefois, si le titulaire des politiques dans le pays est satisfait de ses réalisations, il est impossible que le pays pourrait éroder. Si cela produit, l'Indonésie est devenue une partie d'un pays qui n'est pas intelligent et reconnaît les signes et n'a pas réussi à répondre à la situation. Une forme d'alacrité a surmonté les effets de ralentissement économique mondial et de continuer à établir des alliances stratégiques avec la communauté internationale. L'Indonésie doit renforcer vigoureusement la coopération de l'économie mondiale pour surmonter l'ensemble de la situation. De plus, cette occasion est encore très ouverte, compte tenu de la confiance internationale envers le gouvernement actuel est relativement élevée. Cela est prouvé par l'Indonésie comme hôte de divers événements internationaux. C'est pourquoi le Forum économique islamique mondial, WIF, tenu à Jakarta de 2 au 4 août de cette année, est devenu le point de départ, qui est très important pour l'Indonésie et la communauté de pays avec une population majoritaire musulmane à renforcer l'alliance stratégique. Les données démontrent le grand potentiel des pays qui ont participé à WIF avec une population totale de plus de 2 milliards de personnes. La communauté musulmane mondiale est clairement l'un des géants économiques très stratégiques. Selon Média Indonésia, le Forum économique islamique mondial qui s'est tenu deux fois en Indonésie devrait encourager toutes les parties prenantes dans le pays pour se lever et effectuer activement l'alliance stratégique. Nous finissons la revue de presse avec le quotidien Business Indonesia qui a écrit dans son éditorial vendredi le 5 août 2016 « Chercher le futur gouverneur qualifié ». Le quotidien Business Indonesia a écrit « Toutes les parties conviennent que l'élection du gouverneur de Jakarta est une élection de niveau local qui obtient plus d'attention ». La raison, Jakarta est la capitale du pays qui représente la face de l'Indonésie. Hors de la question du prochain gouverneur de Jakarta, la concurrence des futurs candidats a beaucoup discuté, bien qu'il soit encore environ un an avant la mise en œuvre. Selon l'horaire de la Commission électorale régionale de Jakarta, l'élection du gouverneur de Jakarta se tient dès le février 2017, coïncidant avec l'élection de 101 autres régions. Ce qui obtient plus d'attention est certainement Basuki Purnama Cahaya ou Ahok, comme il est souvent appelé, voulait prendre initialement le chemin des candidats indépendants. En fait, le choix d'Ahok a changé. Il a ensuite reçu une offre de certains partis politiques, à savoir le parti Hanura, le parti Nasdem et le parti Golkar. Jusqu'à présent, seulement Sandiaga Uno qui est l'un des candidats au poste de gouverneur et de vice-gouverneur promu par le parti Gerindra. Selon Business Indonesia, il était regrettable si, avant l'élection du gouverneur de Jakarta jusqu'au maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent plus de la popularité du candidat ou des candidats qui peuvent correspondre à Ahok en termes de popularité. D'autre part, les élections de Jakarta devraient être un exemple pour d'autres régions dans la Shoah de la tête de la région. La démocratie n'est pas seulement une procédure, mais parle aussi de la qualité. C'est auditeur d'Itis de Manantir, voici la revue de presse.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, auditrices du monde entier, voici l'histoire d'aujourd'hui, ce soir, l'édition de 6 août. On va commencer le 6 août 1945, une bombe atomique sur Hiroshima. Les bombes atomiques sur la ville d'Hiroshima le 6 août 1945 ont été menées par les alliés qui visaient à faire taire l'armée impériale japonaise qui était connue pour être très héroïque, inébranlable et fidèle à l'Empire. Le 6 août 1945, les États-Unis ont envoyé deux avions de type B-29 qui apportaient la bombe atomique nommée Little Boy du GS américain aux Philippines. L'avion nommé Enola Gay est le porteur de bombes nucléaires avec une masse de 500 tonnes. À 9h, une bombe atomique était largée sur la ville d'Hiroshima. 3 jours plus tard, le 9 août 1945, l'Enola Gay a largué une bombe nommée Fat Man dans la ville de Nagasaki. La ville a été détruite par une bombe d'une masse de 500 tonnes. Les deux événements ont tué environ 220 000 personnes et des milliers de personnes ont souffert de rayonnement. On continue le 6 août 1960, la secrétaire générale de l'ONU a publié un règlement permettant aux troupes de l'ONU d'entrer au Congo. Le 6 août 1960, le secrétaire général de l'ONU a publié un règlement permettant aux troupes de l'ONU d'entrer au Congo. Le Congo a obtenu son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960. Malheureusement, il y a eu encore le conflit à Katanga qui a fait la crise du Congo seulement 3 semaines après Patrice Lumumba devenu le premier ministre. La crise marquée par la lutte de pouvoir, Joseph Kasavubu, Moi Sombe et Joseph Mobutu Seseko. Pour surmonter la crise, Patrice Lumumba a demandé l'intervention de l'ONU. Le 6 août 1960, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, Dag Hammarskjöld, a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de publier une règle qui permettra aux troupes de l'ONU son entrée à Katanga sans interférer dans les affaires intérieures du Congo. La directive de Hammarskjöld a été suivie par l'adoption de la résolution 143 par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui exigeait le retrait des forces belges et appelant le soutien militaire de l'ONU à l'armée congolaise. Le lendemain, la résolution a été faite. Les troupes de l'ONU sont arrivées au Congo. On termine le 6 août 1996, le vol 801 partant la compagnie aérienne Korean Air s'est écrasé à Guam. Le 6 août 1997, le vol 801 appartenant à la compagnie aérienne Korean Air s'est écrasé à Guam. Il était en vol entre Seoul en Corée du Sud et l'île de Guam. Il s'est écrasé lors de la procédure d'approche. Il s'est écrasé sur Nimitz Hill, environ 5 km avant l'atterrissage prévu sur la piste CL de l'aéroport international Antonio B. Wompat de Guam, faisant un total de 228 morts sur les 254 personnes à bord. Ces auditeurs auditifs, c'était l'histoire d'aujourd'hui. La Voix d'Indonésie, ce soir à Jakarta. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en titre, l'Indonésie et Sri Lanka discutent la coopération de la sécurité et de l'économie. Le président Joko Widodo, le mercredi au Palais Merdeka Jakarta, a rencontré le premier ministre de Sri Lanka, Ranil Wickremasinghe. Après l'entretien, la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi, qui a accompagné le président dans cet entretien, a dit que cette réunion bilatérale a discuté la coopération antiterroriste entre les deux pays. La ministre Retno a dit « Chaque discussion sur le radicalisme, l'extrémisme et le terrorisme, l'Indonésie est toujours à la pointe de la coopération. » Sri Lanka a estimé l'Indonésie plus grand pays islamique qui a réussi de propager la tolérance et la modernité. Le premier ministre Ranil souhaite que Sri Lanka et l'Indonésie puissent renforcer la coopération pour contre le radicalisme, l'extrémisme et le terrorisme. Outre la coopération contre le terrorisme, les deux chefs d'État ont aussi discuté sur la coopération économique. Outre accompagné par la ministre Retno Marsudi, le président Joko Widodo était aussi accompagné par le secrétaire du cabinet Pramono Anung, le ministre des Transports Budi Karya Sumardi, le ministre secrétaire d'État Pratikno, le ministre du Commerce Enggar Tias Tolukita et le ministre de l'Industrie Erlangga Hartarto. Dans cette occasion, afin de renforcer la coopération économique bilatérale, le président Joko Widodo a offert son invité produit de chariots ferroviaires faits par Inka Société Anonyme. Précédemment, l'Indonésie a réussi de vendre ce produit à Bangladesh. Plus tôt, lors d'une visite de travail, le 26 mai 2016, au Japon, le président Joko Widodo a rencontré le président du Sri Lanka, Maithripala Sirisena. Au cours de la réunion, le président de l'Indonésie Joko Widodo a exprimé leur intérêt à participer au développement économique du Sri Lanka, en particulier dans l'achat de voitures de chemin de fer. Le président Joko Widodo a dit à la presse que cette étape est le début des efforts du gouvernement indonésien pour pénétrer le marché d'autres pays afin que les produits fabriqués en Indonésie aient en mesure
d'absorber la majeure partie du marché. Le gouvernement lorgne les marchés dans les pays avec une population de 60 à 100 millions de personnes. Le président ne veut pas que les exportations d'Indonésie dépendent aux pays traditionnels tels que les pays européens, les États-Unis et la Chine. Cher ami, c'était la mise au point.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous nous rencontrons de nouveau dans la rubrique du magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la ville Moro, en province des îles Riau. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix d'Indonésie. Moro est une petite ville en région Karimun qui se trouve à l'île Sugibawah à Riau. On l'appelle Moro parce qu'au passé, il y avait un fils du royaume Malacca et ses gardes qui ont trouvé un trésor dans la région comprennent les diamants or en grande quantité. Étant si heureux, le prince héritier a crié de joie. Kita Moro, Kita Moro. En malais signifie « beaucoup » ou « luxueux ». Depuis lors, le nom de la zone connue sous le nom « Moro » ou « Moro ». Cette petite ville peut être atteinte de Tanjung Balai, capitale de la région Karimun, avec le bateau Pompon pendant environ 45 minutes. Si vous utilisez le bateau de vitesse, le temps de trajet est plus court, environ 15 minutes. Si vous visitez la région Karimun à Riau, vous devez visiter la ville Moro. Cette ville a des endroits merveilleux à découvrir. L'un d'entre eux est le fameux colline Puake Segayung. Dans le passé, cette colline est connue comme un lieu de droit. Par conséquent, pas étonnant si à cet endroit, se trouve les tombes de la dynastie régnante Moro. Colline japonaise est un autre endroit que vous pouvez visiter si vous voulez voir les anciens semelles reliques de troupes japonaises. Au passé, cette colline était utilisée comme forteresse par l'armée japonaise. Après que les Japonais ont attaqué les Alliés en 1945, le peuple chinois a ensuite construit le temple là-bas. Il y a aussi une église catholique à Moro. Cette église est l'une des plus anciennes églises à Riau. Construite en 1928, cette église est toujours fonctionnée par les catholiques pour les programmes religieux. Il est situé au village Moro, non loin du centre-ville. En plus de visiter les lieux historiques de Moro, vous pouvez profiter de la beauté de cette petite ville pour explorer les villages en vélo. Explorer Moro en vélo est très excitant, surtout si elle est faite lorsque la récolte des fruits. La ville Moro et ses villages sont connus comme producteurs de fruits, tels que la mangue, rambutan et la banane. À Moro, vous pouvez aussi visiter la plage Berangan. Ici, vous pouvez se détendre et profiter du magnifique paysage côtier. N'oubliez pas de visiter le village Sidodadi, précisément dans la zone de colline dont se trouve le temple Vipassanagiri. Du haut de cette colline, tout en regardant le bâtiment du monastère, vous pouvez librement regarder autour du paysage magnifique qui est étendu, clôturé de bleu de la mer, grande et petite île. Cet endroit peut vous faire un emplacement pour votre loisir de photographie. Fatigué de découvrir la beauté de la petite ville de Moro, vous pouvez vous reposer dans cette ville et à Moro, c'est disponible de nombreuses auberges avec des taux relativement bon marché. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en titre « Wonderful Indonesia gagne 2 prix à l'Australie ». Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Le monde touristique d'Indonésie est de plus en plus reconnu internationalement. Wonderful Indonesia, soit Magnifique Indonésie, a remporté à plusieurs reprises des prix au tourisme international. Même récemment, Magnifique Indonésie a de nouveau trouvé le succès en apportant 2 prix à l'exposition touristique de voyage à Sydney, en Australie. Deux prix à Sydney étaient composés de la catégorie Best Innovative Stand et 10 Square Meter and Over. La victoire a certainement complété de la victoire après que Pluto, Magnifique Indonésie, a également atteint la décoration The Most Beautiful Diving Destination à Taïwan. Le ministre du Tourisme Arif Yahya a expliqué que la réalisation après réalisation, comme cela, renforcera encore l'image de marque de merveilleux Indonésie dans les pays étrangers. Le plus grand, la valeur de la marque du tourisme indonésien n'a pas seulement à une probabilité de plus de visites, mais aussi la valeur ou le prix de l'unité au niveau des destinations touristiques plus élevées. Cependant, l'adjoint du Bureau de développement de marketing touristique étranger du ministère des Affaires touristiques, Igde Pitane, a jugé le concours et l'attribution à une signification importante à la fois interne et externe. En interne, permettra d'améliorer la qualité et les capacités des ressources humaines dans l'hospitalité, alors que l'extérieur renforcerait la crédibilité de l'Indonésie dans le monde international. En outre, le prix a été obtenu d'une manière qui soit équitable en raison de la qualité. Après avoir porté avec succès 2 prix dans l'exposition de l'industrie de voyage à Sydney, le ministère du Tourisme a lancé la mission de marketing immédiatement à Sydney le 20 juillet et Canberra le 22 juillet. Au pays des kangourous, le ministère du Tourisme d'Indonésie a remporté 8 industries de l'Indonésie. Dans la mission commerciale à Sydney à Canberra, 8 industries de l'Indonésie ont rencontré les acheteurs australiens dans une réunion qui devrait générer des accords commerciaux liés au tourisme qui profitent aux deux parties. On a lancé la mission de vente en raison de la destination. L'Australie n'est pas trop loin de l'Indonésie. Juste un vol de 3 heures de Sydney au Canberra. Deuxièmement, l'Australie est un marché très stratégique pour l'Indonésie. Jusqu'à présent, l'Australie était toujours présent dans la position d'élite de la visite des touristes étrangers en Indonésie. En janvier à avril 2016, il y a eu une augmentation de 4,17% par rapport à la même période l'an dernier. Même l'Office statistique de l'Australie a enregistré en mai 2016 le nombre de touristes qui viennent à l'Indonésie de l'Australie a atteint 108 500 personnes. Les chiffres ont même dépassé les principales destinations touristiques de la société australienne durant cette période, à savoir la Nouvelle-Zélande. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur. Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, ces amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 900-200 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je présenterai des chansons de pop chantées par un groupe de musique Kiribati. On écoute la première chanson de Kiribati intitulée « L'honnêteté du cœur ».
Aku
Le groupe de musique Respata a été créé le 21 avril 2003 à l'initiative de quatre étudiants de l'Institut des musiciens indonésiens, à savoir Arif, Badai, Andika et Anton. Au début, ils ont formé un groupe de musique avec le thème instrumental ethnique, dont ils sont composés dans un nouvel arrangement. La première présentation du groupe de musique Karispati à l'événement de Farabi Sunday le 22 avril 2003. Et ils ont recruté Sami, leurs collègues sur le campus, qui est l'un des 30 finalistes d'Indonesian Idol 2004. En tant que chanteur, en 2005, ils ont sorti leur premier album intitulé « Il est parti ». Cet album a reçu le prix de platine en 2006.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu, biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Adakah di sana kau rindu padaku, kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana.
Ces auditeurs, on écoute deuxième chanson de Chris Patti. Bonne écoute.
Seputih cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Bukalah mata hati, ku masih cumbui bayang dirimu di dalam mimpi yang mungkin takkan pernah membawamu di genggamku. Dirimu di hatiku tak lekang kau bukan milikku. Intan permata yang tak pudar tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku. Ku coba memahami bimbangnya nurani, ku pastikan semua tak akan ku ingkari. Oh, terlalu banyak cinta yang mengisi datang dan pergi, namun tak pernah bisa.
Le 24 avril 2015, Chris Patti a célébré le deuxième anniversaire devant les fans et a tourné le clip vidéo de le nouveau single intitulé « Désolé ». Le 27 décembre 2015, Chris Patti a participé au lancement des mascottes des Jeux Asiatiques de 2017 à Plaza Senayan Gloria Buncarno. Il chantait cinq chansons populaires entre autres « Je dois être honnête », mais je n'ai pas moi. Afin de terminer notre programme, le magazine musical ce soir, on écoute deux chansons de Chris Patti intitulées un mémoire de toi et un temporel. Bonne écoute et au revoir.
Sebuah cinta di dalam aura hadirmu, aku rasakan kelembutan hati di mimpi indah kasihmu. Kita bisa nikmati rasa ini, walau segalanya jelas terlarang, kita bisa saling menyayangi dan mencoba, tak peduli keadaan ini.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Maaf. telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Bahkan ku sia-siakan hidupku dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi kulakukan semua demi cinta.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.